historique et historique.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Le 20 septembre dernier, l'ouverture des archives du Vatican a fait grand bruit. La période concernée est celle du pontificat de Pie XII de 1922 à février 1939. La nouvelle laisse donc sur leur faim de nombreux historiens qui s'intéressent à l'attitude de Pie XII face à la Shoah. L'occasion de vous parler aujourd'hui du rôle des églises tchécoslovaques sous l'occupation et la période communiste. Le 18 juin 1942, à Prague, 7 parachutistes tchèques appartenant au commando qui a assassiné le redoutable Reinhard Heydrich, chef du protectorat de Bohême-Moravie, sont délogés de l'église Saint-Cyrille-et-Méthode par les Allemands. De confession orthodoxe, les prêtres avaient caché les résistants. En septembre 1942 s'ouvre le procès des représentants de l'église orthodoxe tchèque. Tous sont exécutés, parmi eux l'évêque de Gorazd, fondateur de l'église orthodoxe de Bohême, qui sera canonisé en 1987. L'église catholique fournira également son lot de héros. Citons ainsi le couvent des Capucines à Žilina, en Slovaquie, où les bonnes sœurs cachent plusieurs enfants juifs de septembre 1944 jusqu'à la fin de la guerre. Quant à l'archevêque de Prague, Mgr Beranek, opposant notoire aux nazis, il sera déporté à Dachau. C'est le même Beranek qui, en juin 1949, sera arrêté par le régime communiste et placé en résidence surveillée jusqu'au début des années 60. La persécution de l'Église catholique par le nouveau régime commence, si l'on ose dire, par une mauvaise boutade. Avant même que le président Beneš ne meure, le 3 septembre 1948, Gottwald, premier président de la démocratie populaire tchécoslovaque, fait donner en son honneur un Te Deum à la cathédrale Saint-Guy. C'est sans doute avec une ironie non dénuée de cynisme que Gottwald utilisait une cérémonie religieuse pour sonner le glas de la démocratie. Quelques mois après, le régime entreprend une attaque en règle contre toutes les communautés religieuses. L'Église catholique est étroitement surveillée. La forte proportion de catholiques en Moravie et la portée universaliste de la religion rendent celle-ci indésirable aux idéologues du régime. Comme d'autres catégories de la population, les membres de l'institution ecclésiale connaissent leur épuration. Les autorités décident de mettre un terme à toute activité religieuse qu'elles ne contrôleraient pas, quitte à offrir un semblant de continuité par l'intermédiaire d'emblignes soigneusement choisies. Pour les catholiques, ce sera Pleuhar, un ex-prêtre, qui sera promu à la tête du mouvement des prêtres pour la paix. Son objectif, non officiel, lutter contre l'influence des catholiques de l'extérieur, en premier lieu le pape. Parallèlement, l'organisation de l'Église est entièrement remodelée. Des évêques sont arrêtés et remplacés par des prêtres choisis par le parti. En 1950, la police arrête les religieux des couvents et des monastères, en tout plus de 2000 personnes. L'enseignement du catéchisme est, on s'en doute, interdit au fur et à mesure dans les établissements scolaires. Parmi les protestants, un pasteur, Josef Hromadka, accepte de collaborer partiellement avec le régime. Il crée la Conférence chrétienne pour la paix qu'il préside en 1958 à 1969. Habile paravent idéologique, le concept de paix fut, on le voit, largement exploité. Il permettait de mettre en scène, face à l'opinion internationale, la douce colombe soviétique contre les impérialistes fascistes. Quant aux 24 000 juifs de Bohême-Moravie qui avaient échappé à l'extermination nazie, ils ne seront plus que 6 000 après une première vague d'émigration en 1948-50. Celle-ci fut peut-être moins due à un simple rejet du régime qu'au retour d'un fort antisémitisme d'État. Après la mort du grand rabbin de Prague, l'institution rabbinique est dissoute. Durant les années 60, le régime relâchera légèrement la pression tout en maintenant un étroit contrôle qui s'affirme sous la normalisation après l'écrasement du printemps de Prague. En 1971, le mouvement des prêtres pour la paix est remplacé par le mouvement Pacem in Terris, la paix toujours. Celui-ci contrôle l'hebdomadaire Katolické noviny, Nouvelle catholique, la seule revue de l'Église dans le pays. Depuis 1948, le clergé n'est pas renouvelé et en 1972, on compte 3 évêques pour les 13 diocèses de Tchécoslovaquie. En 1978, un prêtre polonais Jean-Paul II accède au pontificat. Et c'est un tournant radical. Si l'influence du Saint-Père a des conséquences moins spectaculaires qu'en Pologne, il n'impousse pas moins l'Église catholique tchécoslovaque à sortir de sa réserve. L'archevêque de Prague, Mgr Tomášek, condamne l'association Pacem in Terris et réclame plus de liberté. La perestroïka de Gorbatchev ne fait qu'amplifier le mouvement, qui prend par ailleurs une assise populaire. À partir de 1985, on peut voir en Moravie des pèlerinages rassemblant jusqu'à 100 000 personnes. Ce n'est sans doute pas un hasard si le pape décide en 1988 de faire canoniser Sainte Agnès, grande dévote, sœur du roi Venceslas Ier et sainte patronne de la Bohême. La révolution de velours en 1989 voit certaines personnalités religieuses poussées sur le devant de la scène. Le père Mali, qui avait signé la charte 77, prononce de nombreux discours lors des événements de novembre. Parmi les protestants, le pasteur Miloš Reichert et le philosophe Ladislav Hejdánek, également signataires de la charte, sont tout aussi actifs. Évoquons enfin le cas original de Carol Sidon, expulsé en Allemagne suite à sa signature de la charte et qui revient après la révolution de velours pour devenir en 1992 le rabbin de Prague.